Bienvenue dans l'Antre du Gnome, votre série audio de fantasy. Vous vous apprêtez à écouter un épisode de la première saison, intitulé Les Parjures. Pour une meilleure expérience, installez-vous bien confortablement et utilisez un casque ou des écouteurs. Bonne écoute! Attention, ce programme peut contenir des scènes susceptibles de choquer les auditeurs sensibles. Il est déconseillé aux personnes de moins de 15 ans.
Quelle bonne idée, ces sacrifices d'orphelins!
Ses sbires lui avaient apporté une cargaison en fin d'après-midi qui venait directement des quartiers les plus misérables. Dans le lot, un ou deux s'étaient révélés être des mages et on les avait envoyés dans un des temples où ils apprendraient à maîtriser leur pouvoir.
Les petits vénards.
Pour les autres, la plupart gisaient déjà dans la faille. Le hommage commençait d'ailleurs à se lasser quand arriva le tour d'une fillette. Blonde, les yeux bleus, la peau pâle. Elle avança jusqu'à lui en titubant. Chanvre et pavot, un mélange spécial afin que la marmaille se tienne tranquille. Alors que le mage guidait l'enfant vers le bord du précipice, des hurlements retentirent sur une terrasse voisine. Balord jeta dans leur direction un regard mauvais. Qui osait perturber son sacrifice? Les cris furent néanmoins rapidement étouffés et le sorcier continua, un sourire malsain aux lèvres. Il se plaça derrière le tribu et lui releva le menton d'une main ferme. De son poignard rituel et dans un geste net, il lui trancha la gorge. L'enfant défaillit, mais il la maintint debout quelques instants, avant de la faire basculer avec théâtralité dans le gouffre de la créatrice. Homme, femme ou enfant, l'effet que ces offrandes lui procuraient était toujours le même. Une jouissance extrême, teintée d'une satisfaction grandissante. Bientôt, oui, bientôt. Plus aucun commun n'arpenterait cette terre. Les portes du palais n'étaient pas gardées et Nahan s'engouffra à l'intérieur du bâtiment en courant. À présent, il devait se souvenir. L'homme avait plusieurs fois assisté à des cérémonies devant la faille, mais l'inquiétude semait la confusion dans son esprit. Il emprunta différents corridors, essayant de se rappeler des détails de la route. Après plusieurs minutes d'errance, le père de famille commença à paniquer. Il était égaré dans ce labyrinthe de couloirs, et chaque seconde perdue mettait la vie de sa fille en péril. La gorge nouée et les larmes aux yeux, Nahan s'engagea dans une nouvelle allée. Au bout se trouvait une porte ouverte sur une foule de gens. Son cœur battait la chamade, il y était arrivé. Il parcourut les derniers mètres au pas de course et déboucha sur une terrasse bondée. L'homme joua des coudes pour atteindre la balustrade. Non. La plateforme où se dressait l'autel se situait sur la paroi d'en face, en contrebas de celle où il se tenait. Il regarda le hommage lever un long poignard, sa tunique et ses mains déjà maculées de sang. Balord se tourna, et c'est alors que Nahan aperçut une petite silhouette se diriger vers lui. Son souffle se coupa. La vie. Elle avançait tel un être dénué de raison vers son bourreau.
Non, la vie! Je suis là! Fais demi-tour, mon ange!
Elle ne l'entendait même pas. Nahan chercha une solution, observant rapidement les environs tout en continuant de crier.
La vie!
Il posa un pied sur la balustrade. Le gouffre n'était pas si large. Il pouvait probablement y arriver. Avec l'énergie du désespoir, il s'élança dans le vide. Mais son saut fut avorté par une force contraire qui le ramena sans délicatesse sur la terrasse. L'homme tomba au sol, prêt à en découdre. Une jeune femme rousse se pencha rapidement sur lui et d'un ton sévère ordonna
« Cessez de crier ou vous serez tué !»
La colère monta en Nahan qui eut envie de lui vomir tout un lot d'insultes, mais elle reprit
« C'est votre fille ? Je suis navrée. Nous ne pouvons plus rien pour elle maintenant. »
L'homme se releva d'un bond et poussa la rouquine sans ménagement. Le hommage tenait la vie par le menton et posait sa lame sur sa gorge. Le souffle court, le père assista au triste spectacle. Le sang gicla sur ses magnifiques cheveux dorés. Elle défaillit, et Nahan s'élança en avant, comme s'il pouvait la prendre dans ses bras, mais la barrière retint son geste. Son cœur rata un battement, puis deux, puis trois. Le temps parut comme suspendu. Il ne respirait même plus. Les yeux fixés sur son enfant qui perdait progressivement la vie. Il aperçut ses petites paupières se fermer sur les pupilles bleues qu'elle tenait de sa mère. Les larmes ruisselaient sur les joues de Nahan, mais il ne parvenait pas à se détourner. Le corps de son bébé tomba dans la faille avec une lenteur extrême, et il lui sembla, à lui aussi, qu'il chutait. Dans un état second, l'homme ne sentit pas la main qui saisit son bras et le tira vers le couloir. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement et Balord sursauta. Un homme au visage sale et aux vêtements usés se tenait devant lui. Il paraissait fou de rage. Loin de se décontenancer face à cette intrusion, le mage s'empourpra de colère.
« Comment osez-vous importuner votre seigneur ?»«
Vous êtes pas mon seigneur !»
Le sorcier inspira profondément. Visiblement, l'agresseur n'était qu'un commun. Balord se détendit, déposa sa robe de chambre sur un fauteuil et s'assit sur le lit. Il ignora tout à fait l'homme qui se dressait dans l'encadrement de la porte.
« Je vais vous buter !»
L'intrus sortit de sous son veston une petite lame qu'il brandit vers le mage. Ses yeux exorbités, ses narines dilatées et les soubresauts de son corps trahissaient sa haine. Néanmoins, son haleine sentait fort l'alcool qu'il avait dû avaler pour se donner du courage. Balord demanda tranquillement.
« Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ?»«
Vous n'avez pas à le savoir ?»«
Si, bien sûr que si. »«
Je suis pas là pour parler !»«
Oui, j'ai bien compris, mais j'ai vraiment besoin de cette information. »
L'inconnu hésita, soudain perdu par la tournure que prenaient les événements. Son bras s'abaissa un instant, et il questionna incrédule.
« Pourquoi ?»«
Voyez-vous, jeune homme, je veux savoir comment vous avez pénétré ici pour pouvoir tuer le garde qui devait surveiller l'entrée par laquelle vous êtes passé. »«
Vous pourrez pas ! Je vous laisserai pas sortir !»«
Oh, mon brave, il est bien entendu que je vais vous éliminer avant. »
L'homme paniqua à ces mots et se jeta sur son adversaire, le poignard en avant. Le haut mage s'écarta d'un geste agile et invoqua son pouvoir. L'air s'échauffa dans la pièce, tandis que l'agresseur, emporté par son mouvement, s'affalait sur le lit. Il se releva d'un bond et se tourna vers sa proie, son hostilité tout à fait réveillée. Mais alors qu'il avançait vers elle, un bruit de tonnerre éclata et une lumière vive éclaira la chambre. Celle-ci s'éteignit aussi vite qu'elle était apparue, ne laissant derrière elle qu'un corps calciné encore fumant. Le sorcier observa la carcasse et fronça le nez. L'odeur de chair brûlée l'avait toujours incommodé. Il faudrait des jours pour qu'elle se dissipe. Balord poussa un soupir sonore. Il ne lui restait plus qu'à trouver une autre chambre. Le jour poignait à peine, mais les conseillers se tenaient déjà au garde-à-vous dans la grande salle. Ils avaient eu vent de l'incident de la nuit et se préparaient à une réaction violente et démesurée de leur souverain. Ce dernier entra en sifflotant, s'autorisant même un pas de danse. L'angoisse monta d'un cran. Les sorciers eurent des sueurs froides et l'un se trouva près de défaillir. La seule chose qui mettait le hommage de si bonne humeur était... la mort. Après l'erreur de la veille et les nouvelles à venir, il risquait d'y en avoir beaucoup. Balord prit place autour de la table et, tout sourire, indiqua aux autres de s'asseoir. Tous s'exécutèrent prestement. Balord rompit le silence pesant, tout en gardant son air enjoué.
« Ah, c'est une belle journée, vous ne trouvez pas ? Alors, quelles sont les nouvelles ?»«
Nous avons enquêté sur le trajet de l'individu, monseigneur. »«
Ah, bien, bien. Et qu'avez-vous découvert ?»
Le rouquin déglutit. L'appréhension tirait ses traits et il torturait ses doigts sous la table. Il essaya d'articuler une réponse assurée, mais sa voix partit dans les aigus.
« Il semblerait, votre grandeur, qu'il soit passé par le jardin potager. »«
Et où étaient les gardes ?»«
Les gardes ont subi un sortilège d'endormissement. »
L'attitude gaie de Balord se mua rapidement en stupeur, puis en colère. La mâchoire serrée, les yeux exorbités et l'écarlate aux joues, il darda sur le rouquin un regard furieux. Le conseiller évita tout contact visuel, espérant ainsi se protéger du courroux de son monarque. Le maître de la foudre prononça en découpant chaque syllabe l'horrible évidence.
« Il y a des traîtres dans notre ordre. »«
Oui. »«
Savez-vous qui ils sont ?»«
Nous ne les connaissons pas tous. » « En revanche, ô mage, nous savons qu'ils sont menés par Mila Gaven. »«
La terrestre ?»«
Oui, seigneur. »
Balord se leva et marcha un moment en silence. Il s'arrêta devant la fenêtre où il inspira profondément la brise matinale. Le ciel, encore rouge, promettait une belle journée. Il demanda en se retournant.
Où est-elle ?
Nous l'ignorons. Il semblerait qu'elle se soit enfuie hier soir.
Retrouvez-la alors !
Mais, votre Altesse, elle pourrait être partout !
À nouveau, le regard perçant du maître se posa sur le conseiller. Il réfléchit un moment avant de recommencer sur un ton plus calme, mais plus sournois.
Souhaitez-vous, mes chers amis, laisser des traîtres réduire à néant tous nos efforts ? Oui, ils pourraient se trouver n'importe où. Mais ne sommes-nous pas les plus grands sorciers de tout Linusie ? Ne sommes-nous pas capables de remonter la piste d'une vulgaire mage de la terre et une femme de surcroît ?
Les sbires acquiescèrent, revigorés par l'entrain de leur monarque, sans toutefois se risquer à une quelconque effusion.
Bien, maintenant que nous sommes d'accord, débusquez-les. Je veux voir leur tête sur des pics, et ces pics au milieu d'un bûcher.
Bien, ô mage.
Suspendez le corps du commun devant les portes du palais, et ceux des gardes avec. Que ça serve d'exemple.
Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Les conseillers échangèrent des regards interrogateurs et inquiets. Enfin, Erto osa dire ce que tous pensaient.
Monseigneur, avec tout le respect que je vous porte, les gardes n'y sont pour rien dans cette affaire.
Pour rien ? Tu te moques de moi ? Ils ont failli à leur mission. Je veux voir leur misérable chair pendue à une corde. C'est clair ?
Oui, maître.
Une dernière chose. À compter de ce soir, vous enverrez nos soldats exterminer la population. Cette histoire a déjà beaucoup trop traîné.
Erto s'étrangla. Même s'il connaissait la névrose de son monarque, il n'avait jamais pensé que celle-ci aurait raison de l'ensemble des communs. Quelques milliers de morts, se disait-il, ça suffira à assouvir sa soif. Le sorcier n'aurait jamais cru que Balord irait jusqu'au bout. C'était pure folie. Il tenta alors, et comme à son habitude depuis des années, de minimiser les dégâts causés par les élans du hommage.
Vous voulez déclarer la guerre, monseigneur ? Je ne suis pas sûr que cela soit bien prudent. Nous risquons beaucoup de pertes, et...
Un éclair traversa la salle avec fracas, éclatant un morceau de l'épais mur de pierre. Erto s'enfonça sur sa chaise. L'expression du hommage ne laissait aucun doute sur ses intentions. Il susurra entre ses dents à la manière d'un serpent perfide.
« Ton insolence m'a coûté une table et un mur, maître du feu. Mais je suis raisonnable. Je te laisse une dernière chance. » Si j'apprends que tu as désobéi à mes ordres, je te promets de te mettre moi-même sur une pique, et je ne prendrai pas la peine de séparer ta tête de ton corps avant ça.
L'équipe de l'Antre du Gnome vous remercie pour votre écoute. Nous espérons vous revoir bientôt. Ce programme a été écrit par Mirado. Il vous a été conté par l'autrice ainsi que par Timothée Dolidon. Vous pouvez retrouver la liste des musiques dans la description de l'épisode. Les textes, les voix, ainsi que la chanson La Mésange sont protégés par le droit d'auteur.